Good Evening Business. Actu, experts, débats et interviews des grands acteurs de l'économie.
18h01 sur BFM Business. Bonsoir à toutes et à tous. Soyez les bienvenus dans votre rendez-vous du soir. Good Evening Business. On est ensemble en direct jusqu'à 19h. Et dans l'actualité de ce vendredi 11 novembre, eh bien, c'est ce gros coup de froid qui nous vient de la Commission européenne. Bruxelles a publié à midi ses dernières prévisions économiques. Et ça y est, on y est. La zone euro va entrer en récession. C'est imminent, notamment à cause d'une inflation qui n'en finit plus de monter. On va voir ça dans un instant avec Aude Kersulek. Sinon, Joe Biden était cet après-midi à la COP en Égypte et le président américain promet que son pays tiendra ses engagements de réduction d'émissions de gaz à effet de serre dans le cadre de l'accord de Paris. Mais vous allez voir que Joe Biden a aussi dans son viseur un certain Elon Musk. Visiblement, les positions du patron de Twitter envers l'Arabie Saoudite, la Chine ou encore la Russie font tiquer du côté de la Maison Blanche. Et puis depuis hier, tout le monde se demandait ce qu'allait devenir la plateforme de crypto, d'échange de crypto FTX. Et bien, puis cet après-midi, on a la réponse. FTX fait faillite aux États-Unis et son patron a annoncé sa démission. On verra ça dans un instant avec Frédéric Simotel. Voilà donc pour le journal à 18h15. Mon invité, c'est Joël Fourny, le président des chambres de métiers et de l'artisanat. On parlera avec lui donc de cette inflation et puis du Made in France avec la 10e édition du salon qui se tient à deux pas d'ici, porte de Versailles. Et puis à 18h30, comme tous les soirs, c'est le grand débat de Good Evening Business. On est ensemble jusqu'à 19h. Donc ça y est, l'hiver arrive, le fameux winter is coming, et ben on y est, en tout cas d'après Bruxelles. La Commission européenne a publié à la mi-journée ses dernières prévisions économiques et c'est donc un petit coup de tonnerre puisque Bruxelles nous dit que l'Europe s'apprête à entrer en récession. Écoutez le commissaire européen à l'économie, Paolo Gentiloni.
L'économie de l'Union européenne est à un tournant. Après un premier semestre 2022 étonnamment solide, l'économie de la zone euro devrait entrer en récession à la fin de l'année, selon les dernières estimations. Les chiffres attendus pour l'année prochaine prévoient une croissance significativement plus faible et une inflation significativement plus élevée. Nous tablons désormais sur une croissance de la zone euro de 0,3% en 2023, avant un redressement progressif à 1,6% en 2024.
Voilà le commissaire européen à l'économie qui présentait donc à la mi-journée ses dernières prévisions. Bonsoir, Aude Kersulek.
Bonsoir.
Ça y est, hein, donc on vient d'entendre Paolo Gentiloni, l'Europe entre en récession.
Et même si la Commission européenne relève pour cette année sa prévision de croissance à 3,2%, c'est une satisfaction de courte durée. C'est surtout dû à un bon début d'année. Les choses se dégradent franchement au quatrième trimestre. Et alors l'an prochain, l'économie devrait connaître un coup d'arrêt, seulement 0,3% de croissance pour la zone euro et des pays en récession. L'Allemagne devrait connaître une croissance négative à moins 0,6%. La France devrait l'éviter de justesse, hein, tout juste au-dessus de zéro. La croissance est bien évidemment plombée par l'inflation, hausse des coûts de l'énergie, des denrées alimentaires. Et là, ça ne va pas se calmer tout de suite, même si le pic d'inflation serait passé cette année à un petit peu plus de 8%, 8,5%. La prévision pour l'an prochain est largement revue à la hausse de 4 à 6,1% pour l'ensemble de la zone euro. Mais les autres indicateurs économiques, s'il faut une note positive, ne vont pas s'aggraver davantage. Le chômage va rester autour de 6,5%. Le déficit public de la zone euro va continuer de se réduire à 3,5% du PIB, évidemment. Tout ça est bien incertain et dépend de ce qui va se passer aussi du côté de l'Ukraine et de la Russie.
Quelques petites bonnes nouvelles, effectivement, sur les comptes publics, mais pas vraiment du côté de l'inflation. Bonsoir, Sofiane Aklouf.
Bonsoir.
L'inflation, donc la hausse des prix, elle est notamment, on le sait, du côté de l'alimentaire. La FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, nous dit aujourd'hui que la facture mondiale des importations alimentaires devrait bondir cette année de 10% à 1940 milliards de dollars. Et la FAO, évidemment, s'inquiète pour le sort des pays les plus fragiles, Sofiane.
Oui, en quelque sorte, c'est la double peine pour ces États à faible revenu. Non seulement le prix des importations alimentaires va augmenter, mais en parallèle, leurs volumes reçus vont, eux, diminuer d'environ 10%. L'exemple le plus frappant, c'est l'Afrique subsaharienne. D'après le rapport de l'Organisation des Nations Unies, cette partie du monde va importer moins, tout en dépensant plus de 5 milliards de dollars en plus. La dépréciation de leur monnaie face au dollar, la monnaie d'échange sur les marchés, aggrave évidemment la situation depuis le début de la guerre en Ukraine, un conflit qui porte tout de même le prix des céréales à un niveau inédit. La FAO relève que dans 30 pays, plus de 30 pays sont dépendants de Kiev et de Moscou pour au moins le tiers de leurs importations.
Et dans le même temps, Sofiane, la facture des intrants agricoles, dont les engrais, flambe cette année, évidemment.
Et plus 48% par rapport à l'année dernière. De quoi fragiliser ces pays en proie à l'insécurité alimentaire. La raison de cette hausse, c'est l'augmentation, la multiplication par 3 des prix du gaz et des engrais, dont la Russie était le principal exportateur mondial. La FAO, elle réclame de son côté un mécanisme d'aide pour ces pays très dépendants aux importations. Le FMI a fait un premier pas en septembre avec la création d'un guichet choc alimentaire pour ces États, mais pour une durée seulement d'un an.
Merci beaucoup, Sofiane. Et puis Joe Biden, je vous le disais, était à la COP cet après-midi et il a insisté, vous allez l'entendre, sur le bon bilan de son pays en matière de climat. Il le dit, les États-Unis vont tenir leur objectif de réduction d'émissions de CO2 d'ici à 2030, les fameux accords de Paris. Écoutez Joe Biden.
We're proving that good climate policy is good economic policy.
Les États-Unis prouvent qu'une bonne politique écologique est une bonne politique économique. C'est un fondement fort pour une croissance durable, résiliente et inclusive. Nos actions font en sorte que les États-Unis soient sur la bonne voie pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris, réduire nos émissions de 50% par rapport à 2005 en 2030. Reducing emissions 50-52% below 25 levels by 2005 levels by 2030. Thanks to the actions we've taken. Aujourd'hui, grâce aux mesures que nous avons prises, je peux vous dire en toute confiance que les États-Unis atteindront leurs objectifs de réduction d'émissions en 2030.
Voilà, Joe Biden à la COP en Égypte, mais le président américain a aussi visiblement dans son viseur un certain Elon Musk. Le locataire de la Maison-Blanche confirme que son administration s'intéresse aux liens entre le milliardaire et plusieurs puissances étrangères. Des liens qui, je cite, méritent d'être examinés, d'après Joe Biden. La présence des Saoudiens en capitale de Twitter, notamment, est une de ses principales inquiétudes. Simon Tenenbaum.
Le feuilleton du rachat de Twitter n'est peut-être pas complètement achevé. En cause, la présence du prince Al-Walid parmi ceux qui ont accompagné Elon Musk dans sa prise de contrôle. Le Saoudien est devenu le deuxième actionnaire du réseau social, ce qui inquiète visiblement la Maison-Blanche. Le sénateur démocrate qui préside la commission des affaires étrangères a déjà réclamé une enquête du comité sur les investissements étrangers, chargé d'évaluer les risques pour la sécurité nationale, notamment en ce qui concerne les données des citoyens américains. Ce comité peut bloquer des acquisitions. Plus largement, Washington voit d'un mauvais œil certaines prises de position d'Elon Musk lui-même. En bon terme avec Pékin, il s'est dit favorable au rapprochement entre Taïwan et la Chine. Le milliardaire, reprenant à son compte certaines propositions des Russes, a aussi menacé de couper Starlink en Ukraine. De quoi alimenter la nervosité de l'administration Biden, en particulier en ce qui concerne SpaceX, contrôlé par Musk et qui travaille étroitement avec le Pentagone.
Simon Tenenbaum. Et puis ça bouge encore, vous me direz ça bouge tout le temps, mais ça bouge encore sur les fonctionnalités de Twitter, puisqu'Elon Musk a fait réapparaître le fameux badge officiel. Par contre, l'abonnement à $8 par mois pour faire certifier son compte, lui, a disparu du réseau social depuis quelques heures. Et puis pour finir, tout le monde se demandait ce qu'allait devenir la fameuse plateforme d'échange de crypto FTX après le retrait hier de l'offre de Binance. Bonsoir Frédéric Simotel.
Bonsoir Thomas.
Et bien on a la réponse depuis quelques heures. FTX fait faillite aux États-Unis et son patron démissionne.
Oui, c'est visiblement l'épilogue. Après tous ces chapitres, tout s'est vraiment accéléré cette semaine. Placement sous la loi américaine des faillites, la fameuse loi Chapter 11. Ce qui signifie que les 130 sociétés affiliées à FTX, notamment FTX US pour la plateforme américaine, FTX.com pour la plateforme mondiale, mais aussi le fonds d'investissement Alameda, vont pouvoir travailler sur chercher comment monétiser leurs actifs, parce qu'il y a quand même des clients qui s'inquiètent pour leurs tokens, même si quelques négociations ont commencé à démarrer avec certains d'entre eux. Donc le coup fatal, il est effectivement venu hier lorsque Binance a annoncé qu'il ne rachèterait pas, il renonçait à racheter la plateforme de crypto-monnaie FTX. Des doutes sur les comptes, des doutes sur une mauvaise gestion des clients. Vous savez, l'été dernier, lors de la crise, le crack crypto de l'été dernier, FTX était lancé dans des rachats vraiment très exagérés de développeurs de technologies crypto, blockchain, et un peu à fond perdu. Et puis tout ça, ça a été financé par quoi ? Par des tokens FTX. Donc c'est là où on a commencé à comprendre que la pyramide reposait sur des piliers assez fragiles. Et donc là, aujourd'hui, le patron démissionne. Alors, on a nommé un nouveau patron en attendant, mais voilà, ça semble être, comme je disais à l'instant, l'épilogue. dialogue. Alors, est-ce que ça va se reporter sur l'ensemble du marché des cryptos? On voit que le Bitcoin est descendu sous les 17 000 dollars, 17 000 euros à parité. Il semble se maintenir à ce niveau-là, mais c'est certain que pour certains experts, c'est encore leur Far West. Pour d'autres, mais il serait temps qu'une certaine réglementation commence à arriver dans ce domaine.
Merci beaucoup Frédéric. Et évidemment, tous les développements après cette affaire sont à retrouver sur BFM Crypto. 18h11, on part sur les marchés. À Euronext avec Stéphane Pedrazzi. Bonsoir Stéphane, quelle est la tendance à Euronext à la clôture des marchés?
0,58% de hausse ce soir en clôture sur le marché parisien, 6594 points, ce qui nous fait une très belle semaine. 2,8% de hausse pour le marché parisien sur les 5 dernières séances, porté essentiellement par deux facteurs, le ralentissement de l'inflation aux États-Unis qui permet d'espérer un ralentissement du cycle de hausse des taux aux États-Unis, et puis aujourd'hui l'assouplissement des mesures sanitaires en Chine avec la réduction de la durée de quarantaine obligatoire pour les voyageurs qui entrent dans le pays, a également rassuré les investisseurs. Côté valeur, le secteur du luxe profite justement de cet assouplissement de la politique sanitaire chinoise. LVMH notamment termine ce soir en progression de 2,8%. Très belle séance également pour le titre Casino. Il gagne plus de 14% après la publication d'un EBITDA en forte progression pour le troisième trimestre, 62% de hausse. Et puis rebond assez spectaculaire en fin de séance pour le titre Téléperformance, 8% de progression à la clôture. Alors évidemment, on n'a pas rattrapé la dégringolade d'hier, 34% suite à l'annonce d'une enquête en Colombie pour de possibles infractions au droit du travail. Parmi les valeurs en baisse, Thales surtout se détache du lot. Le titre termine en baisse de 8,6%. Un groupe de pirates informatiques a finalement publié sur le dark web des données qui avaient été volées au groupe Thales il y a quelques semaines. L'entreprise rappelle qu'aucune demande de rançon ne lui a été adressée et affirme que cette fuite de données n'a eu aucun impact pour l'instant sur son activité.
Merci beaucoup Stéphane. Stéphane Pedrazzi en direct de Euronext, et très bon week-end à vous, on se retrouve lundi. Les marchés américains, le Dow Jones recule un petit peu, là 0,53% à 33 535 points, le Nasdaq, lui progresse et dans le vert, on gagne 0,81% à 11 205 points. 18h13 sur BFM Business, on marque une pause et dans un instant, c'est Joël Fourny, le président des chambres de métiers de l'artisanat, qui est mon invité dans Good Evening Business. A tout de suite.
Good Evening Business sur BFM Business.
Notre premier invité ce soir dans Good Evening Business, c'est le président de CMA France, les chambres de métiers et de l'artisanat. Bonsoir Joël Fourny. Bonsoir. Merci d'être là ce soir sur BFM Business. On va parler évidemment du Made in France, du salon. C'est la 10e édition qui se tient à deux pas d'ici, porte de Versailles, à deux pas des studios de BFM. Et puis aussi des entreprises que vous représentez, donc les artisans, et de l'impact sur eux de la crise énergétique. Joël Fourny, 10e édition du salon Made in France. Où est-ce qu'on en est sur ce Made in France? C'est quoi les chiffres clés aujourd'hui? Ça représente combien d'entreprises et combien de chiffres d'affaires?
Alors, le Made in France aujourd'hui, déjà, CMA France est un partenaire officiel du salon Made in France 2022.
Donc vous êtes bien placé pour nous donner les chiffres plus récents.
Et bien sûr, l'artisanat en premier lieu, parce que l'artisanat est une réelle réelle expression du Made in France, du fabriqué en France, ouais, du savoir-faire français, ouais. Et donc du coup c'est une vraie vitrine pour nous, le salon Made in France. Et donc aujourd'hui on a 1 800 000 entreprises artisanales qui sont la révélation de ce que l'on peut faire. D'accord. Et fabriquer en France sur l'ensemble du territoire national. C'est aussi la création d'emplois, c'est aussi la création de vraies valeurs, c'est le développement aussi de produits nouveaux.
Et alors vous sauriez dire dans quelle proportion le Made in France a progressé ces dernières années? Parce qu'on s'en souvient, voilà, tout le monde a cette image en tête de la marinière d'Arnaud Montebourg. Au début, il y a un an, enfin là, la première édition, c'était quelques dizaines de produits, pas plus le salon. Aujourd'hui, on est passé dans quelle dimension?
Alors, quand vous voyez qu'il y a 10 ans, la première édition, c'était 75 exposants. Aujourd'hui, on en est à 1000 exposants, 110 000 visiteurs aujourd'hui. Donc, c'est l'expression
attendue
même.
Sur les 3 jours, là.
Attendu sur les 3 jours. Mais aujourd'hui, je peux vous dire que pour être allé au salon sur ces deux journées, ouais, et en particulier aujourd'hui, il y avait une foule pas possible. Okay. En tout cas, sur le village de l'artisanat, on a eu un monde extraordinaire. D'ailleurs, les artisans eux-mêmes m'ont dit, mais on n'a même pas le temps de voir les autres collègues à côté. Donc ça veut dire que c'est un salon qui porte vraiment en reconnaissance. Ouais. Et en tout cas, je pense que le consommateur a vraiment une attention particulière par rapport aux produits fabriqués en France.
Et alors pourquoi?
Parce que je pense qu'il considère qu'il faut faire travailler l'entreprise artisanale française. C'est aussi participer au maintien de l'économie française. C'est aussi de créer de la vitalité sur l'ensemble des territoires au niveau national. C'est aussi donner confiance aux artisans pour créer de l'emploi, pour développer leurs entreprises. Voilà. Et je pense
que c'est de la solidarité économique.
C'est de la solidarité économique. Ils savent aussi, au travers de cela, que l'artisan va prendre conscience aussi qu'il doit avoir un minimum de respect de ses consommateurs. Et donc, il va travailler aussi sur le fait de donner et de proposer des produits qui font référence à des produits de qualité, à des produits qui respectent les enjeux environnementaux, dans la conception, dans la fabrication. Et donc, c'est aussi sécurisé sur tous les plans, à la fois sur le développement durable.
Même si tout ça, évidemment, a un prix.
Bien sûr.
En moyenne, vous direz que le Made in France, c'est combien plus cher ?
Moi, je ne sais pas si c'est combien plus cher, etc. Et de combien ça peut être plus cher. Je pense que c'est des choix. C'est un choix à faire.
C'est le choix du consommateur.
Et aujourd'hui, moi, j'ai entendu beaucoup de citoyens qui sont venus au salon et qui se disent je vais peut-être avoir un panier moyen moins élevé, mais par contre, je vais le consacrer à des produits qui me plaisent mieux, qui vont prendre en compte aussi ma santé, qui vont prendre aussi les enjeux de l'environnement. Voilà, c'est ça en fait la réalité. C'est fait chacun est conscient que avoir une conscience citoyenne, c'est aussi prendre en compte le fait qu'on va faire des choix. Donc il faut pas toujours travailler en fonction du coût, et je pense que les artisans sont conscients aussi.
Il y a une réalité économique,
Réalité, et aujourd'hui il y a la réalité économique, évidemment,
on peut pas
tous les artisans ne répercutent pas dans la totalité les surcoûts liés à la crise économique.
On va en parler. Je voulais juste vous faire réagir aussi à une actualité. Il y a visiblement des abus autour du Made in France. C'est la DGCCRF qui nous dit que, après avoir enquêté sur 1000 entreprises qui se réclamaient du Made in France, il y en avait 15% qui étaient en infraction. Entre guillemets, c'était de la publicité, enfin pas de la publicité, mais c'était une affirmation trompeuse. Vous étiez conscient de ça? Il y a aujourd'hui des abus dans le Made in France ?
Oui, il y a toujours, comme dans toute chose, il y a toujours des gens qui arrivent à trouver des éléments qui leur permettent de pouvoir passer et communiquer sur un label de reconnaissance et qui peut mettre en valeur leurs produits, alors qu'à l'origine, ils ne sont pas du tout fabriqués en France, et encore moins avec des produits et des approvisionnements français. Donc évidemment, je crois qu'il faut rester vigilant. 15%, c'est énorme, mais du coup, ça veut dire qu'il faut vraiment y travailler, ça veut dire qu'il faut vraiment faire la part des choses pour qu'on soit capable de regarder précisément qu'est-ce qu'est la réalité du Made in France.
Joël Fournier, est-ce que vous diriez qu'il y a deux France, une qui va vers le Made in France, notamment parce qu'elle en a les moyens et parce qu'elle a certaines préoccupations qui lui tiennent à cœur, et puis l'autre qui va de plus en plus vers les petits prix, vers le discount? À votre place, il y avait Alexandre Bompard, le patron de Carrefour, qui était notre invité cette semaine sur BFM Business, qui va accélérer à fond sur le discount, il va même importer en France son concept de cash and carry brésilien. On a des magasins qui ouvrent quasiment tous les jours de hard discount, des enseignes étrangères comme Aldi ou Action. Est-ce que vous diriez que le Made in France, c'est pas pour tout le monde.
Le Made in France, ça peut être pour tout le monde si on le souhaite. Ça veut dire qu'à un moment donné, il faut savoir ce que l'on veut. Parce que derrière, tirer par le bas les prix, essayer de baisser au maximum et travailler sur du low cost, etc., c'est aussi créer un risque majeur d'appauvrir les territoires, de voir disparaître un certain nombre d'entreprises qui sont vitales au dynamisme et l'attractivité des territoires. Ouais. Donc ça veut dire que si vous voulez qu'on puisse voir disparaître des milliers d'entreprises sur l'ensemble du territoire national.
Non, mais ça, personne ne le veut. Mais après, est-ce que tout le monde peut
qu'il faut se donner les moyens. C'est des choix politiques qu'il faut absolument faire.
Ah,
et donc il faut se donner les moyens de pouvoir mettre en valeur les produits qui sont issus du territoire, du territoire national notamment, et en tout cas qui sont faits ici en France, et faire en sorte de travailler sur des prix qui soient abordables, bien sûr, mais compétitifs aussi au reste de ce qui peut être produit. Mais on ne peut pas faire la comparaison d'un produit bas par rapport à un produit qui va aussi faire valoir une qualité, service apporté, etc.
Et alors l'inflation, Joël Fourny, est-ce que vous avez entendu Michel-Édouard Leclerc avant-hier qui dit qu'il va y avoir un tsunami d'inflation qui va arriver en France, une inflation à deux chiffres? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que c'est ce qui se passe dans les produits que fabriquent vos artisans?
Alors, bien sûr, on a cette inquiétude sur le risque d'inflation. Et Édouard Leclerc, est-ce qu'il détient la vérité? Je n'en sais rien. Mais en tout cas...
Mais il dit chiffres à la pluie. Hein, j'ai les factures de mes industriels.
Mais en tout cas, moi, j'ai envie tout de vous dire que les artisans ont envie d'être résilients, ont envie de rester confiants, même s'ils sont particulièrement inquiets. Hein, et c'est normal. Hein, mais en tout cas, ils vont essayer de se repositionner, de s'adapter dans leur fonctionnement pour permettre de continuer leurs activités. Je pense qu'il y a un certain nombre d'éléments aujourd'hui qui viennent fragiliser. Je pense qu'il faudra travailler aussi ces éléments-là, notamment par rapport à la crise énergétique dans laquelle on est. Donc peut-être étaler le bouclier fiscal, pas simplement aux entreprises de petites entreprises, mais sur tout l'ensemble des toute la catégorie d'entreprises artisanales. Et il faut absolument
les artisans n'y ont pas droit.
Ils ont le droit, mais jusqu'à un certain niveau et au-delà d'une consommation plus importante. Ouais. Vous avez un boulanger qui est au-dessus du 36 kWh.
Ah ben là, il y a des nouvelles aides qui ont été annoncées.
Il y a des nouvelles aides, mais
l'amortisseur électricité.
L'amortisseur électricité, mais c'est un dispositif qu'on a du mal à cerner, qu'on a du mal à percevoir. Moi, je voudrais qu'il y ait des choses qui soient, des choix qui soient faits vraiment très précis et que les choses soient simples pour que ce soit accessible par l'entreprise artisanale et qu'elle sache si ça va lui coûter 20, 10, 20% ou 30% de plus et quelle est la lisibilité. C'est ça qui lui permettra de pouvoir continuer à développer, continuer à créer de l'emploi et continuer à assurer d'apporter un service aux consommateurs.
Ça, pour le coup, vous n'êtes pas le seul à le dire. Effectivement, les aides pour absorber un peu ce choc énergétique, c'est très compliqué et du coup, beaucoup d'entreprises n'y ont pas droit. Il nous reste une minute, Joël Fourny. Là, pour le coup, ça c'était très simple comme aide. Une prime de 8000 euros pour prendre un apprenti majeur, 5000 euros pour un apprenti mineur. Que vont devenir ces aides? On sait que l'État doit faire des économies parce que ça coûte une fortune et que l'État s'est énormément endetté en subventionnant l'embauche d'apprentis. Qu'est-ce qui va se passer l'année prochaine? On a posé la question à Carole Grandjean, la ministre en charge du sujet la semaine dernière, elle n'a pas voulu sortir du bois. On parle d'une réduction, enfin d'une aide unique à 6 000 euros. Est-ce que vous confirmez ou pas?
Oui, c'est ce que j'entends également. C'est une aide qui est, semble-t-il, avancée. Et j'espère que ça ira au bout parce qu'au moins, c'est quelque chose qui peut être dans le sens de répondre favorablement pour obtenir les 1 million d'apprentis dans les années qui viennent. Là, vous avez vu, les aides sont nécessaires. Les entreprises artisanales ont continué dans des périodes de crise successives et de périodes difficiles à s'engager sur l'apprentissage, à engager des apprentis. On peut regretter qu'effectivement, la prime sur les majeurs soit supprimée dans sa totalité, mais en tout cas je pense que dans le secteur de l'artisanat ça répond au travers du renforcement de la prime chez les mineurs de 6000 euros ça répond très largement aux besoins aussi de formation dans le domaine et pour répondre aux besoins des entreprises artisanales.
Bon, ce sera le mot de la fin. Visiblement ça a l'air d'être bon pour vous. On se fera confirmer ça évidemment du côté du gouvernement. Merci beaucoup Joël Fourny d'avoir été notre invité ce soir sur BFM Business. Je rappelle que vous êtes président des chambres de métiers et de l'artisanat. Très bon salon du Made in France à vous et à bientôt. Bientôt 18h30 sur BFM Business. On marque une pause dans un instant. Un rappel sur l'actualité avec Vanessa Younsi et puis évidemment le grand débat de Good Evening Business. A tout de suite.
Good Evening Business. Le débat.
Avec autour de la table ce soir, Frédéric Farah, bonsoir.
Bonsoir.
Économiste et professeur à Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Xavier Timbaud, bonsoir. Directeur de l'OFCE.
Bonsoir.
Et Cyril Lachèvre, ancien confrère et aujourd'hui patron, fondateur de l'agence Silence. Bonsoir.
Bonsoir.
À tous les trois. On va commencer évidemment par ce coup de tonnerre qui est arrivé de Bruxelles à la mi-journée. Les prévisions économiques d'automne de la Commission européenne. Et Bruxelles nous dit que ça y est, on y est, l'Europe va entrer, c'est imminent, en récession. On écoute le commissaire européen aux affaires économiques, Paolo Gentiloni.
L'économie de l'Union européenne est à un tournant. Après un premier semestre 2022 étonnamment solide, l'économie de la zone euro devrait entrer en récession à la fin de l'année, selon les dernières estimations. Les chiffres attendus pour l'année prochaine prévoient une croissance significativement plus faible et une inflation significativement plus élevée. Nous tablons désormais sur une croissance de la zone euro de 0,3% en 2023, avant un redressement progressif à 1,6% en 2024.
Bon, on a planté le décor. Frédéric Farah, l'heure est grave?
Je ne sais pas s'il en est grave, mais en même temps, est-ce qu'on peut être totalement surpris? Je n'en sais rien. De toutes les façons, ce choc énergétique était important. Déjà qu'on avait eu l'INSEE avant qui nous avait dit qu'à part l'investissement, la consommation était plus plate et qu'en France, ça n'allait pas non plus progresser de manière terrible. Donc je dirais que la question, c'est moins de savoir s'il en est grave, c'est quelle est la politique économique face à ça. C'est-à-dire, d'un côté, on a une BCE qui dit qu'elle veut continuer à augmenter ses taux et qu'elle veut agir sur la demande et qu'elle veut freiner. De l'autre côté, la Commission européenne nous indique que la situation n'est pas très bonne. Maintenant, il faut savoir comment on articule le budget et la monnaie pour affronter cette situation au niveau de la zone euro. Et si vous voulez, au-delà de ce qui arrive, jamais la zone euro, de toutes les façons, depuis sa création, n'a connu une croissance particulièrement dynamique. Ça n'a jamais été une zone en 23 ans qui a affiché des performances économiques exceptionnelles. On n'a jamais assisté à la zone euro comme zone locomotive du monde. On n'a jamais vu ça. Donc, si vous voulez, là, maintenant, bon...
Il y a une différence entre être une petite locomotive et une autre d'être à zéro. Là, on est à zéro.
C'est voilà. La question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait et quelle est la réponse qu'on peut faire soit au niveau national, soit au niveau européen, et quelles sont les réponses qu'on peut apporter.
Xavier Timbaud.
Oui, c'est un choc important qui tombe sur la zone euro par l'augmentation des prix de l'énergie. Ça représente à peu près 3 points de PIB pour les pays de la zone euro, d'augmentation de la facture énergétique.
Ouais. En France, c'est 60 milliards.
Voilà, 60 milliards.
Le choc pour les entreprises.
C'est quelque chose de considérable, il faut vraiment en prendre la mesure. C'est d'ailleurs le même ordre de grandeur que ce qu'on avait connu au moment du premier choc pétrolier, avec des conséquences qu'on peut imaginer, qui vont être effectivement d'un ralentissement très fort de l'économie, voire de l'entrée en récession de beaucoup de pays dans la zone euro.
Ouais.
Voilà.
Alors, pour être précis dans les prévisions de la Commission, tout le monde vivoterait un peu au-dessus de zéro, sauf l'Allemagne. Sauf l'Allemagne qui, elle, serait légèrement en dessous à moins 0,6, Cyril. C'est quand même un signe. Enfin, l'Allemagne, pardon, et aussi la Lettonie. Oui. Mais voilà, sinon, tout le monde surnage un peu au-dessus. Et l'Allemagne, par contre, a un peu la tête sous l'eau.
Oui, c'est probablement ce qu'il y a de plus important dans cette nouvelle prévision, au-delà de l'aspect spectaculaire de la révision à la baisse, c'est qu'effectivement l'Allemagne va très mal, va aller très mal, et ça explique beaucoup de choses, ça justifie pas forcément, mais ça explique leur réaction sur pas mal de sujets et les fortes tensions avec le couple franco-allemand. Moi, un diplomate français me disait, les Allemands, ils ont le sentiment d'être comme un noyé, et ils essayent absolument de remonter, et peu importe ce qui arrive en dessous, s'ils s'appuient sur les autres pour remonter, et c'est un peu le sentiment qu'on a aussi en voyant ces chiffres. L'Allemagne, pour une fois, j'allais dire, va être vraiment à la traîne, et c'est encore plus eux qui prennent effectivement le choc énergétique du fait d'une politique plus
et leur mix énergétique.
Voilà, exactement. Donc ça, c'est assez inquiétant, notamment d'un point de vue diplomatico-économique pour les prochaines décisions.
Pour le moteur. Et alors, ces chiffres-là qui ne sont pas glorieux, en plus, Frédéric Farah, c'est si, entre guillemets, tout va bien. C'est-à-dire que si on arrive à peu près à sécuriser nos approvisionnements d'énergie, si ce n'est pas le cas, on serait à moins 0,9 l'année prochaine.
Oui.
Alors vous me direz entre 0 et moins 0,9 quelle est la différence, mais bon quand même. Ça montre bien que vraiment là on est mal embarqué dans les prochains trimestres.
Là on se retrouve avec le problème effectivement énergétique et la réponse européenne, quelle réponse l'Europe peut apporter à ça? Et comme Xavier Timbaud le disait très justement, le choc est quand même d'une ampleur considérable, et donc les choses peuvent effectivement, si on trouve pas de solution, on va dire collective, où là on essaye de bricoler des solutions tant bien que mal, la question de l'énergie va se reposer de manière encore plus cruciale dans les mois à venir, et on ne sait pas comment la situation peut effectivement évoluer. C'est pour ça que je répète, pour moi, l'important aujourd'hui, c'est de voir comment on construit ce qu'on appelle un policy mix, c'est-à-dire la combinaison entre le budgétaire et le monétaire, pour pouvoir faire face à cette situation et pour savoir, d'un côté, comment on fait à la fois pour tenir des objectifs qui sont souvent contradictoires, c'est-à-dire à la fois maintenir une certaine croissance et lutter contre l'inflation.
Ouais.
C'est-à-dire que, généralement, en théorie économique, si vous avez un peu plus de croissance, ça veut dire que vous acceptez un peu plus d'inflation. Et si vous avez un peu moins d'inflation, c'est-à-dire que vous devez accepter peut-être un peu moins de croissance. Et comment on fait pour tenir tout ça ensemble, sachant qu'il faut articuler deux niveaux, c'est-à-dire le niveau national et le niveau supranational, c'est-à-dire le niveau européen. Donc moi, la réponse, effectivement, elle est des réponses au niveau national, j'entends les plans divers et variés, mais effectivement, au niveau européen, il va falloir qu'on s'entende assez clairement pour ne pas, si effectivement l'eau monte, voir les choses nous submerger.
Xavier Timbaud, en tout cas la prophétie, enfin, je ne sais pas si c'est le mot, mais l'avertissement de Christine Lagarde de dire on va remonter les taux et puis s'il faut passer par une récession, on en passera par là, c'est ce qui se passe. On y est là.
Alors, c'est ce qui se passe, mais la récession, elle se produit même indépendamment de la remontée des taux, parce que le choc qui se produit, l'augmentation de la facture énergétique, c'est récessif.
Il suffit à lui seul à nous mettre là où on est aujourd'hui.
Ah bah, largement. Et donc, les chiffres de la Commission, d'ailleurs...
Alors, pourquoi en rajouter avec une politique monétaire restrictive ?
C'est une bonne question. et c'est toute la question. Et en fait, toute la difficulté pour la Banque centrale, c'est dans cette situation où il y a de l'inflation d'apparaître crédible, et de dire oui, je fais quelque chose et j'ai les moyens de contrôler l'inflation, mais de l'autre côté, de ne pas rajouter une double peine à cette récession qui est déjà considérable par une politique monétaire trop restrictive. Il y a deux autres points dans le budget. On a vu dans un certain nombre de pays, la France par exemple, mais ce n'est pas le seul pays, qu'on peut, par des réponses budgétaires, atténuer l'impact inflationniste.
Bien sûr.
Ce qui facilite la tâche de la Banque centrale. Mais quand même pose un autre problème, qui est que ça augmente les déficits.
La dette, ouais.
Et puis après, il y a une autre chose qu'il faut quand même dire, c'est il y a le volant monétaire, il y a la partie budgétaire, mais il y a quand même une autre chose qui est essentielle, c'est la question énergétique. C'est-à-dire, comment on fait pour être plus sobre, consommer moins de gaz, moins de fossiles, un tout petit peu diversifier ses approvisionnements, en tout cas c'est critique pour un certain nombre de pays.
Bien sûr.
Et ce qui est essentiel,
y compris
c'est
la France,
quand même...
Hein, ouais.
Mais ce qui est essentiel, c'est quand même de réduire notre dépendance aux fossiles, au gaz, au pétrole, parce que c'est la clé. Voilà, on est en train de mettre des dizaines de milliards dans le bouclier tarifaire. Ces dizaines de milliards, s'ils avaient été investis avant dans la rénovation thermique des bâtiments...
On ne peut pas refaire le film, mais...
On ne peut pas le refaire, mais l'ordre de grandeur de ce qui est mis dans le bouclier tarifaire aurait permis d'éviter cette dépendance aux énergies fossiles. Donc ça, c'est quand même un élément qu'il faut avoir en tête, parce que ça peut se reproduire, ça se reproduira probablement, et donc il ne faut pas juste dire, voilà, on va passer la vague, et puis après, tout ira bien.
Cyril, vous parliez tout à l'heure du découplage franco-allemand, il y a aussi peut-être un découplage Europe-États-Unis qui va se produire, parce qu'hier, les États-Unis ont publié un chiffre d'inflation que tout le monde a adoré, 7,7%, alors c'est très haut, mais ça y est, on repasse sous les 8%, ça va peut-être détendre un petit peu Jérôme Powell et la Réserve fédérale américaine, alors qu'aujourd'hui, l'Europe nous dit, déjà on était très haut dans l'inflation, mais ça va être encore pire.
Il y a clairement un décalage États-Unis, découplage États-Unis Europe du fait que la politique monétaire américaine a commencé à se durcir beaucoup plus tôt que l'européenne, qui elle pour le coup est peut-être arrivée trop tard. Et par ailleurs, effectivement, il y avait des mesures prises par Joe Biden, de budgétaires, qui ont un peu
massives.
Voilà, qui ont permis quand même de stimuler les choses. Donc effectivement, ils sont en avance de cycle dans une certaine mesure.
Ouais.
Moi, je pense que ce que fait la Fed est très courageux et assez nécessaire. En tout cas, elle apparaît assez crédible dans sa volonté de réduire l'inflation. Et peut-être qu'effectivement, ça permet de casser les anticipations de hausse de prix. D'ailleurs, la Commission européenne, pour revenir chez nous, dit que parmi les facteurs qui pourraient aggraver la situation, c'est si se met en place une spirale
prix-salaire.
Alors, honnêtement, je ne vois pas comment on peut ne pas augmenter les salaires dans la situation et avec le choc qui va se passer. Donc ça, je ne sais pas du tout comment ça va être géré et quels seront les impacts.
Pour l'instant, les salaires augmentent moins que les prix.
Enfin, honnêtement, ça m'a un peu surpris de voir ça comme un facteur de risque, parce qu'à minima, si ça se passe pas, c'est quand même un facteur de risque social. Donc, je vois pas la bonne. Enfin, je vois pas en quoi ce serait très grave. Mais ça, c'est les économistes qui pourront nous éclairer. Mais
Frédéric, on parlait de l'énergie. Pendant que la Commission, enfin en tout cas que le commissaire Paolo Gentiloni présentait ses nouvelles prévisions, d'autres fonctionnaires de la Commission européenne, eux, étaient en train de se réunir pour trouver des parades face au prix de l'énergie et notamment du prix du gaz. De ce qu'on en comprend, il n'y aura pas de plafonnement du prix de gaz, on n'arrive pas à se mettre d'accord, malgré la volonté d'une douzaine de pays, dont la France. On se dirige vers un corridor de prix. On ne va pas rentrer dans la technique, mais de ce qu'on en comprend, ce n'est pas ça qui va faire drastiquement chuter les prix du gaz. On va rester avec une facture énergétique quand même considérable l'année prochaine.
Oui, en fait, je crois qu'en fait, cette affaire du corridor, en quelque sorte, c'est, si vous voulez, c'est un peu un emprunt à quelque chose qui existait autrefois dans la monnaie, qui était le serpent monétaire, ensuite le système monétaire européen. C'est-à-dire, en fait, une bande de fluctuations et avec un plancher, un plafond. Ouais. Et à l'époque, c'est les banques centrales qui devaient jouer le rôle avant la période de l'euro. Donc, on se dit, tiens, une expérience dans le domaine, alors on va faire une espèce de
vieille expérience.
De serpent, mais cette fois-ci
énergétique,
et qui est un mi-chemin, puisque comme on n'arrive pas à complètement convaincre soit les Indes d'aller vers le plafonnement, soit de laisser les choses en l'état parce qu'il y a des tensions entre Européens. Bon, on essaie de trouver une espèce de mi-chemin. C'est ce qui caractérise, si vous voulez, en permanence l'Union Européenne. C'est-à-dire, c'est des compromis plus ou moins satisfaisants, plus ou moins provisoires, en attendant un nouveau. Et avec, vous savez, toujours la même dramaturgie. Ça se fait à 2h du matin, on négocie ça à la dernière minute, etc. Donc là, aujourd'hui, le problème, c'est que ce qu'on disait tout à l'heure, Xavier Timbaud le disait très bien, c'est-à-dire, en fait, on a construit jusque-là des orientations économiques qui ont fabriqué de la vulnérabilité à tous les étages. Et en fait, qu'est-ce que fait une crise ? Ben, elle révèle en permanence les choix du passé et tout ce qui n'a pas été fait. Et aujourd'hui, ben, qu'est-ce qu'on fait ? Ben, dans l'urgence, comme il est difficile de trouver un intérêt commun à tout le monde, puisque tout le monde n'a pas le même mix énergétique, tout le monde n'a pas fait les mêmes choix. L'Allemagne a fabriqué de la dépendance au gaz, qu'elle a un peu aussi qu'elle a un peu imposé aux autres, ben, qu'est-ce qu'on fait ? On essaye de dire, tiens, on va essayer de trouver une manière de faire fluctuer les prix. Et là, on n'a pas les détails, parce que quand on voit le communiqué du Conseil qui est tombé, bon, on ne nous dit pas encore techniquement comment ça va se faire, tout comme les approvisionnements communs, on nous dit sur
tout
la base
fait,
du volontariat.
Les achats de gaz en commun.
Ouais. Sur la base du volontariat. Tout c'est ce qui est écrit noir sur blanc dans la communication.
Ce qui frappe quand même, Xavier, c'est que pendant la pandémie, on a réussi à agir vite et fort. Alors, les situations n'étaient pas les mêmes. Effectivement, là, on était tous logés à la même enseigne face à la pandémie. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Mais quand même, le constat est là aujourd'hui, et Bruxelles le dit, le choc est violent, il y a des risques de délocalisation, ça peut être très très grave pour notre industrie. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas quand même à trouver une réponse à la hauteur de cette grave crise énergétique ?
Oui, mais je vais prendre le contre-pied de Frédéric, parce que je pense qu'en fait, on a trouvé la bonne réponse. Et je pense que la proposition qui était sur la table de la France, par exemple, qui était de plafonner le prix du gaz, était une mauvaise solution. Quel était l'argument qui était contre cette solution ? C'est que, en fait, si on plafonne le prix du gaz, on prend le risque d'un rationnement sur les quantités. C'est-à-dire que si vous plafonnez le prix du gaz à 100 euros le mégawattheure et que le marché mondial il est à 120 euros le mégawattheure, bah, vous aurez plus de gaz liquéfié qui va arriver en Europe. Il ira au Japon, il ira ailleurs. Et ça, c'était une situation dans laquelle aucun des pays européens ne voulait se retrouver, parce que ça veut dire être capable de gérer un arrêt des approvisionnements en gaz brutal et complet. Un corridor de prix, ça permet de dire bah, on va tout faire pour faire baisser le prix, parce qu'on a bien compris qu'il y avait plein de raisons pour le faire baisser. D'abord, ça limite le choc économique sur la zone. Ensuite, ça évite aussi de transférer des milliards à la Russie et d'alimenter son économie de guerre. Donc, ce qui est quand même pas négligeable dans l'histoire.
Évidemment.
Donc, c'est essentiel de jouer sur le prix. C'est-à-dire, c'est pas juste une réponse à une situation de crise. C'est en fait une arme stratégique dans cette guerre qui nous oppose à la Russie, qui n'est pas une guerre militaire entre l'Europe et la Russie, mais qui est une guerre qui passe par des tas d'autres champs de bataille. Donc il fallait être capable de faire quelque chose, acheter le gaz en commun, mettre un corridor, jouer sur les stocks de façon stratégique pour pouvoir les mettre sur le marché quand on pense qu'on peut jouer à la baisse sur le prix pour le maintenir le plus bas possible. Mais si jamais il y a une tension très forte sur le gaz, parce que je ne sais pas, imaginez un hiver très très froid, des sabotages sur des gazoducs.
Tout est possible, on voit depuis le 24 février.
Et à ce moment-là, il faut être capable de dire, bah, dans ce cas-là, oui, on va acheter le gaz plus cher parce qu'on a besoin du gaz pour un certain nombre de choses et qu'on ne peut pas se mettre dans une situation dans un coin. Il y a eu une réponse. Cette réponse, je pense qu'il faut lui accorder sa chance et du crédit.
Lui donner sa chance.
Et voir ce que ça va donner. Mais je pense qu'on est bien dans cette doctrine de il faut réagir dans les situations de crise, mais de façon intelligente. L'Europe, c'est... Il faut arriver à satisfaire tout le monde, et donc il faut écouter tout le monde, et il y a des arguments qui ne sont pas forcément...
Et on le sait, c'est compliqué. Voilà. On va voir très concrètement effectivement comment tout ça va se mettre en place dans les prochains jours ou semaines. On marque une courte pause dans le débat et on se revient dans un instant. On va voir l'impact de tout ce qu'on vient de se dire sur notre consommation, le Made in France, il y a le salon à côté, et les relocalisations. A tout de suite.
Good evening business. Le débat.
Allez, 7h10 sur BFM Business, la deuxième partie du grand débat de Good Evening Business avec Frédéric Farah, économiste, professeur à Paris 1, Panthéon Sorbonne, Xavier Timbaud, directeur de l'OFCE, Cyril Lachef, fondateur de l'agence Silence. Messieurs, on a parlé inflation, récession, crise énergétique. Le Made in France dans tout ça, on en parle parce qu'il y a le salon, la 10e édition du salon qui se tient en ce moment. Est-ce que le produire en France doit rester une priorité du moment dans la conjoncture actuelle, dans le contexte là dont on parle depuis un quart d'heure?
Alors, il y a
produire en France, c'est une chose. Et puis, il y a de toute façon, ça, c'est une véritable tendance de fond et qui ne concerne pas que la France, qui est la relocalisation des chaînes de production, des chaînes de valeur, ce qu'on appelle. Je disais une étude d'une entreprise française qui s'appelle Kima, qui est spécialisée dans les tests de contrôle qualité dans le monde entier, dans les usines. Mmh. Et ils ont eu 95% de leurs clients qui sont affectés par des problèmes de logistique depuis le Covid et qui s'aggravent en plus, puisque les deux tiers d'entre eux pensent que ça va être encore plus difficile. Donc, ce que font les entreprises, c'est pas tant de la relocalisation, c'est ce qu'on appelle du near-shoring, c'est-à-dire on rapproche en fait en quelque sorte les côtes, si je puis dire. En fait, c'est une manière de dire qu'on produit le plus près possible de chez soi. Alors, si c'est pas chez soi, parce que c'est pas non plus faisable, ça implique par exemple pour la France et le sud de l'Europe de s'appuyer plus sur le Maghreb, enfin sur le bassin méditerranéen, etc. etc. Donc, ça, c'est une vraie tendance de fond. Et là-dessus arrive effectivement le Made in France. Alors, moi, je suis toujours un peu contrariant sur le Made in France, mais moi je sais pas si vous connaissez l'histoire de l'invention du Made in. C'est les Anglais qui avaient inventé le Made in Germany en 1890 parce que ils voulaient pas que les produits allemands arrivent chez eux, et ils avaient dit les produits pourris c'est des Made in Germany, et donc en fait c'était un truc négatif.
Ah oui, intéressant.
Pour forcer les Anglais à acheter des produits qui n'ont jamais d'ailleurs été Made in England, ça n'a jamais existé le Made in England. Bon, bref, et donc les Allemands, eux, malins, en ont fait une force en fait. Bon, voilà, et donc nous, le Made in France, c'est bien beau, mais c'est pour produire en France, c'est très important. Mais le Made in France, pour moi, ça ne veut pas dire grand-chose si on n'arrive pas derrière à définir vraiment ce que c'est que la fabrication française, le style français, ce que c'est la qualité, ce que c'est que ces choses comme ça. Et je trouve que le débat est toujours un peu trop politisé sur « Ah, on est très content d'avoir ramené une usine, c'est très bien pour l'emploi, évidemment ». Enfin, je pense qu'on rate quand même quelque chose sur un peu un label France de production. Là, on n'a jamais abordé ce débat-là. Enfin,
une stratégie, Frédéric Farah, c'est ça ? Enfin, vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Cyril Lachève, que le Made in France, ça va un peu tout rien dire ?
Il faudrait préciser, parce qu'effectivement, aujourd'hui, on a glissé aussi, au-delà de la France, du Made in au Made by. C'est-à-dire.
C'est vrai.
C'est vrai. Passer du Made by, c'est-à-dire assembler quelque part, plus que fait quelque part entièrement. Et c'est ça aussi le principe des chaînes de valeur. Après, derrière cette question du Made in France, bon. On peut aussi se poser la question qui est l'enjeu aussi derrière ça, c'est tous nos savoirs et nos savoir-faire, qu'ils soient industriels ou autres, et comment effectivement...
Artisanaux, on en parlait avec le président de la Chambre de métiers d'artisanat avant vous.
Comment au moment où on vit cette crise énergétique, qu'au moment où il y a des efforts, par exemple, de réindustrialisation, ils ne soient pas complètement entravés, contraints par cette crise énergétique qui effectivement va nous placer dans une situation de grande difficulté. Au-delà de la question, est-ce que c'est bien made ou pas, c'est ne pas perdre des savoirs et des savoir-faire. C'est-à-dire que le problème, c'est comment dire, quand des entreprises partent, quand des secteurs s'en vont, il y a des effets d'apprentissage qui disparaissent.
Tout à fait.
Et donc le problème, et ça c'est difficile ensuite après de les reconstituer. Donc aujourd'hui, bon évidemment, alors dans ce salon il y a plein d'initiatives. Je lisais aussi une étude que par exemple dans ce que le textile par exemple, dans ce que nous achetons, il n'y a que 3% à peine qui est fabriqué ici, ouais. etc. Donc bon, après la question est de savoir jusqu'à quel point il faut porter l'affaire. Et aujourd'hui, dans les chaînes de valeur, on constate, en tout cas, et c'est le mouvement de la mondialisation actuelle qui tend vers plus une régionalisation qu'une mondialisation en tant que telle, ou forcément un repli sur la sphère nationale. Ouais. Donc la question se pose, c'est au moment de la crise énergétique, comment ces efforts de réindustrialisation ne soient pas entravés.
Xavier Thimbault, parce que ça, effectivement. L'enjeu, c'est de relocaliser, mais vu le contexte, c'est déjà bien beau si on évite de délocaliser. Il y a plein d'entreprises qui sont tentées d'aller faire tourner des usines ailleurs. Je recevais le patron de Safran il y a la semaine dernière, qui dit « je devais ouvrir une usine à Lyon pour fabriquer des disques de frein carbone. L'énergie coûte tellement cher que, en attendant, moi, je vais faire tourner mes usines en Malaisie, aux États-Unis. » C'est déjà bien beau si on arrive à éviter les délocalisations, non ?
Oui, alors l'énergie, elle coûte cher un peu partout quand même. Hein, donc,
oui, non, qu'en Europe.
Pas qu'en Europe.
Ah lui, il dit « c'est 5 fois plus cher en Europe qu'ailleurs. »
Mais pour
prix du gaz, il dit c'est un rapport de 1 à 5 le prix du gaz.
Par exemple, la crise énergétique, là, en Allemagne, elle a un impact sur l'inflation qui est de 10%, elle a un impact sur la France qui est à 5%.
Ouais.
C'est lié au bouclier tarifaire et aux mesures qui ont été prises. Ça donne un avantage compétitif à la France considérable sur l'Allemagne, parce que les salaires, ils vont augmenter, et ils vont moins augmenter en France qu'ils ne vont augmenter en Allemagne.
Non, mais voilà, beaucoup d'industriels se posent la question, et notamment en Allemagne, justement, de dire, là, en ce moment, mes usines, enfin, tous les jours, on a des exemples, je vais réduire la voilure, je vais arrêter de produire, ou je vais travailler de nuit, je m'arrête pendant 4-5 mois, et à la place, par contre, je vais aller faire tourner mes usines en Asie, aux États-Unis.
Et en fait, on est un peu victime d'un mécanisme qu'on a mis en place, qui est que l'électricité voit son prix, en fait, indexé sur le gaz.
Ouais.
D'où d'ailleurs dans la réponse européenne aussi toute une réflexion sur comment arriver à déconnecter le prix du gaz,
la réforme du marché
de l'électricité, enfin, en tout cas celui du prix de l'électricité, du prix du gaz, pour éviter cet effet assez terrible. Bon, donc je pense qu'on peut pas, rester sur la question du Made in France uniquement sur la question de la crise énergétique. Ce que dit Cyril est extrêmement important. C'est le label Made in France. Il peut pas être que patriotique au sens où on est content d'avoir des emplois sur le territoire. Il doit être associé à une qualité environnementale parce que c'est plus près. Que donc voilà, on peut faire le bilan, une qualité sociale éventuellement parce qu'on fait pas travailler des gens dans des conditions, mais aussi une qualité perçue par le consommateur. Voilà, alors ça peut dire le textile qu'on va faire en France, il sera effectivement moins dommageable pour l'environnement, il sera fait dans des conditions sociales plus acceptable, il sera aussi plus durable et donc il permettra d'en acheter moins, moins souvent, en achetant plus de qualité. Si on construit pas le Made in France autour de valeurs objectives, on va le galvauder et ça se terminera mal. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on finira par dire « Ok, c'est Made in France, mais c'est moins bien que ce qui est fait chez le voisin. » Parce que chez le voisin, ils se sont pas cachés derrière un label et ils ont fait des efforts sur la qualité.
Bon, une feuille de route pour le Made in France, très intéressant. Merci beaucoup. Merci à tous les trois d'avoir été ce soir dans Good Evening Business. Frédéric Farah à Paris 1, Panthéon-Sorbonne, Xavier Timbaud au FCE et Cyril Lachèvre de l'agence Silence. C'est déjà la fin de Good Evening Business. Émission à retrouver d'ores et déjà en ligne, notre site internet, réseaux sociaux, podcast, en flashant le QR code qui vient d'apparaître si vous nous regardez à la télé. Lundi, et oui Cyril, même en flashant un QR code, on peut nous retrouver. C'est pas mal quand même, les petites technos qu'on développe ici sur BFM Business. Good Evening Business, donc à retrouver dès lundi 18h avec Guillaume Paul et Audrey Tcherkov. Et dans un instant, eh bien c'est les pionniers chez Frédéric Mazzella. Et Fred reçoit ce soir, messieurs, Didier Bourdon. Eh ben oui, voilà, les économistes aussi ont des aventures à nous raconter sur BFM Business. Les humoristes, pardon, à tout de suite.
Good Evening Business sur BFM Business.